sommes. Bonjour, voilà. On se retrouve donc sur les ondes de Radio Galère en ce jour un petit peu particulier puisqu'il s'agit donc de la journée, la deuxième journée de l'action collective contre le plan Macron concernant les retraites, dont l'équipe de Comaguerre revient d'ailleurs précisément puisque la manifestation de Marseille a été très remarquable, plus ample que celle d'il y a 15 jours, donc on s'en félicite. Et de toute façon, c'est un niveau auquel il faut que la population reste et même qu'elle monte encore d'un cran, car la détermination du camp d'en face est sans faille, au moins en affichage, et donc la mobilisation doit continuer pour faire aboutir ce refus du plan Macron. Alors pourquoi ce refus ? Alors j'y reviens quand même pour bien éclairer la situation, et j'y reviens avec un petit rappel de l'histoire. La retraite à 60 ans faisait partie des 101 propositions du candidat François Mitterrand en 1981. Alors depuis, on est passé, là je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la montée progressive de 60 à 64, peut-être 64, avec le point d'interrogation qui est devant nous et qui n'est pas levé pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé simplement que ces messieurs qui gèrent l'État ont dit effectivement, c'est tout simple, puisqu'il y a des difficultés financières, disent-ils, ce qui est faux, on va les faire cotiser 4 ans de plus. Arrivé à 64 ans, comme l'espérance de vie n'a pas beaucoup bougé par rapport aux années 80, eh bien, ils auront moins de temps à vivre, c'est-à-dire en moyenne peut-être pas 4 d'années de moins à toucher leur retraite, mais au moins 2 ou 3. Et donc, en fait, on va encaisser plus puisqu'ils vont payer plus longtemps et on va dépenser moins puisqu'ils mourront plus vite après l'âge de leur retraite. C'est ça l'équation, elle est simple, en disant, hein, messieurs, eh ben vous coûtez, alors travaillez longtemps et puis vous verrez bien ceux d'entre vous qui n'ont pas fait des travaux pénibles, qui n'ont pas eu d'accident du travail, etc., qui ont eu des carrières pleines, sans des trous, des entreprises qui ferment et tout, pourront encore peut-être jouir de quelques années, mais beaucoup plus tard, hein, 4 ans plus tard, que c'était la situation en 1981. Je rappelle ça pour montrer d'où l'on vient. Et en même temps, il faut se rendre compte d'où l'on vient, c'est-à-dire qu'on a eu face à nous quasiment en permanence, le cas des 2 premières années du gouvernement Mitterrand était un peu particulier. On a eu ce qu'on a appelé l'état de grâce, où effectivement, un certain nombre de mesures sociales ont été appliquées. Je pense aux 35 heures, par exemple. Mais depuis, la pression patronale et la pression gouvernementale n'a jamais cessé pour essayer de diminuer la retraite. Alors diminuer en montant, compliquer la façon de l'obtenir en ajoutant des annuités avec des systèmes de... Enfin, je passe tout ça, vous l'avez entendu. Mais ça n'a jamais arrêté. Alors il y a des moments où ils sont allés plus ou moins vite, parce qu'il y avait une opposition. Je rappelle la grande grève de 95, 2005 encore. Et puis il y a des moments où ils disent, allons-y, on va passer en force une nouvelle fois. Ça, ils savent faire, ils l'ont déjà fait. Je pense le premier gouvernement Chirac, par exemple, donc de 86, premier gouvernement de cohabitation, avait trouvé une mesure que je vous explique parce que c'est très révélateur de la façon dont ils voyaient les choses. Alors, ils n'avaient pas parlé de choses compliquées. Ils avaient dit, on va un peu augmenter les impôts sur le tabac. Bon, moindre mal, vous allez dire. Ça touche pas tout le monde et puis personne ne va aller protester. Mais ce qu'ils avaient fait, ils avaient changé. Alors, vous savez que les salariés cotisent pour la sécurité sociale, donc pour la retraite, pour la maladie, pour les accidents du travail. Et donc, il y a ce qu'on appelle les deux parts, c'est-à-dire l'employeur paye une partie et le salarié paye une autre. Ça, c'est tout à fait simple. Et ils avaient trouvé la chose très, très astucieuse, et c'était la suivante, c'est-à-dire, ben, on va augmenter uniquement la part du salarié. C'est-à-dire, le patronat ne peut pas se plaindre, hein, mais on va prendre 1% de plus sur les cotisations globales. Le patron a sa part qui ne bouge pas, et le salarié, on lui prend 1% de plus. Ça voulait dire que tous les salariés, ce jour-là, touchaient un moins 1% de moins sur leur net. On leur avait fait... Alors, c'était discret, c'était un petit pourcentage, hein, mais ça, c'est ce que j'appelle une mesure de classe. C'est-à-dire, on dit, le patronat ne veut pas payer plus, ça, on a compris, ils passent leur temps à le seriner, les charges, vous avez entendu ça, hein. Et donc, on dit, ben, on prend dans la poche du salarié, oui, son net va un peu diminuer. Ah, mais que voulez-vous ? Mais pas tant, quand même, le système est sauvé, etc. Et donc, c'est ça, cette lutte, donc, qui est quasi demi-séculaire, presque séculaire, maintenant. On est à presque 80 ans du plan Croizat, c'est une lutte permanente pour essayer de casser ce système-là. Alors, le système résiste, on est encore dans la résistance. Il est grignoté, ça revient, ça s'arrête, etc. Mais il y a des moments où il faut savoir que le rapport de force qu'on crée en ce moment dans la rue aboutit à des résultats, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des réformes qui ont été arrêtées. Je pense au plan Juppé de 1995. Donc ce n'est jamais perdu, mais il faut savoir que de toute façon, dans la société dans laquelle on vit, le patronat, qui a décidé qu'il ne paierait pas un sou de plus pour le système de sécurité sociale, essayera toujours de payer un sou de moins. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Au point que, à certains moments, le gouvernement a dit « Bon, ils ne veulent pas payer plus, comment on fait ?» Alors là, je m'arrête deux secondes sur un certain Michel Rocard. Michel Rocard arrive, il est Premier ministre après l'élection pour le deuxième septennat de François Mitterrand. Et Michel Rocard dit « Ah, il y a des difficultés pour la sécurité sociale ». Bon, alors il ne le dit pas, mais le patronat ne veut pas payer plus. Ça, c'est une constante qu'il faut qu'on ait bien en tête. Ils veulent plutôt payer moins, mais plus sûrement pas. Et puis, ils poussent des hurlements. Et puis après, ils vous compliquent la vie politique, etc. Bon, donc que fait Rocard? Il dit « Ah bon, on va manquer d'argent ». Alors, à qui on peut le prendre? Alors, le prendre encore dans la poche des salariés, on leur a déjà pris pas mal. Et puis, ça va encore faire baisser leur salaire net. Donc, comment faire? Alors, comment faire? Il trouve ça une solution très simple. Il crée la CSG, la contribution sociale généralisée. Et ça, c'est un impôt. Et donc, ça, tout le monde est obligé de le payer, y compris les retraités, hein, qui est prélevé à la source. Hein. Tout le monde, c'est un impôt qui est encaissé par l'État et que l'État reverse à la sécurité sociale. Mais l'État, avec toute sa force de coercition, avec tous ses huissiers, tous ses inspecteurs des impôts, etc., dit « c'est un impôt, voilà ». Et alors, pour la petite histoire, tenez-vous bien, parce que quand Rocard invente ça, alors c'est assez élégant comme solution, il dit ben, « il manque de l'argent dans la sécurité sociale, l'État établit un impôt qui est destiné uniquement, c'est ça le but de la CSG, c'est pas pour acheter des armes ni financer des enseignants, non, c'est uniquement destiné à faciliter le budget des caisses de sécurité sociale ». Et quand il fait ça, il dit oh, « on va mettre ça à 1,1%, c'est gentillé hein ». Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on est à 9,2. Parce que ces messieurs ont trouvé bien intelligent de dire ben, quand il y a une difficulté, on monte la CSG. C'est presque. Enfin, c'est pas indolore, puisque vous le savez, mais comme c'est prélevé à la source, que ça augmente assez régulièrement, on n'y fait pas attention. Mais on prend sur tous les revenus 9% pour alimenter les caisses de sécurité sociale. Et ça, c'est la force de l'impôt. L'impôt, l'État, il est contraignant. Il a le monopole de la violence, comme on dit. C'est-à-dire, il peut vous envoyer des huissiers, il peut saisir vos meubles, etc. Bon, donc, ils y arrivent. Et donc, il y a un flux régulier qui est organisé par un certain Michel Rocard. Et donc, tout le monde, y compris les retraités, paye la CSG. Mais elle est prélevée à la source. Donc, ben, voilà, ça fait partie du paysage général. Je voulais rappeler ça en disant que c'est très facile. L'idée, c'est simple. Le patronat qui était directement organisé pour payer, ça c'est le système Croizat, c'est-à-dire que la sécurité sociale fonctionne uniquement sur les revenus du travail, donc le revenu des entreprises, et le patronat a réussi à dire « Moi, j'ai payé ça au début, je ne payerai jamais plus, et si vous pouvez trouver quelqu'un d'autre qui paye à ma place, j'applaudirai de mes deux mains », ce qu'il fait en permanence. Voilà. Et quand il applaudit des deux mains, il sait aussi se faire comprendre par les politiques en disant « Je vous aiderai si vous avez besoin de moi ». Mais si moi j'ai besoin de vous, je saurai aussi frapper à votre porte. Ce qu'il fait. Bon. Je m'arrête là, mais c'est intéressant de revenir un peu sur le passé de ces choses-là et dire, voilà, finalement, on veut nous faire travailler 4 ans de plus pour que nous ayons des retraites plus courtes. Bon. Je ne parle même pas du niveau où elles seraient. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, mais je pense que c'est un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir dans les semaines qui viennent, car vu l'ampleur de la manifestation dont nous sortons, il y avait toute l'équipe de Comaguerre était dans la manifestation tout à l'heure, il devrait y avoir une suite, et une suite encore plus vigoureuse et motivée. Et puis je vais commencer donc ma petite promenade internationale. Je vais vous parler un petit peu de l'Ukraine, quand on n'en a pas beaucoup parlé la semaine dernière, pour faire un peu le point de la situation. Alors, pour vous qui écoutez les grands médias, les mainstream, comme on dit, les grands médias de masse, vous n'entendez plus parler que de la livraison des tanks. C'est ça le grand sujet. Bon. Alors, d'abord, ce n'est pas beaucoup. Hein, c'est 20 par-ci, 30 par-là. Chacun y va de son obol, j'allais dire. Hein. Alors, les Allemands, les Français peut-être, les Italiens, enfin, chacun y va. Mais au fond, d'abord, les nombres sont petits. Les échéances de livraison ne sont pas absolument limpides. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il s'agit de matériels qui sont retirés des arsenaux des uns et des autres et qui ne sont pas de la toute première jeunesse. On sait, bien entendu, que comme il ne s'agit pas de matériel auquel les Ukrainiens, qui ont été formés sur l'armement soviétique, ne sont pas habitués, donc il y aura des temps de formation. On sait aussi qu'il y aura des problèmes tout bêtes de logistique. Par exemple, les derniers modèles de chars Léopold, donc les chars allemands, sont très, très costauds. Ils font, je crois, 74 ou 75 tonnes. Et donc, on sait que sur certaines routes, ils ne passeront pas. Donc, il faudra les mettre sur des remorques porte-chars, sur des trains spéciaux, etc. Enfin, tout ça fait que, je ne veux pas insister là-dessus, tout ça fait partie de la mise en scène de « on s'intéresse à l'Ukraine, on l'aide » et on s'aperçoit que plus on l'aide de cette façon un peu mineure, j'allais dire, hein, donc matériel en petit nombre, matériel en voie de déclassement, matériel à gestion difficile et à conduite difficile, tout ça, c'est des espèces de cadeaux empoisonnés. Ça n'empêche que le monsieur Z de Kiev demande maintenant des bombardiers et des missiles, hein, en disant, puisque chaque fois que je crie, on me fait l'aumône de quelques petites choses, ben pourquoi j'aurais pas des bombardiers ? Alors là, ça commence un peu à inquiéter. Ça commence un peu à inquiéter, et à juste titre. Mais ça inquiète des gens très, très sérieux, et c'est là-dessus que je voulais m'arrêter. Il existe aux États-Unis une fondation qu'on appelle la RAND Corporation, hein, R-A-N-D, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors c'est un des très nombreux, il y a beaucoup de tanks de la pensée aux États-Unis. C'en est un qui est très connu, et il est connu parce qu'il a la confiance et l'oreille du Pentagone. Donc des militaires au plus haut niveau des États-Unis. Et cette RAND Corporation, donc, qui publie des bulletins dans un langage très, très châtié, on explique la situation, les intérêts des uns et des autres, mais c'est pas du tout un langage de va-t-en-guerre. Mais ils ont produit, donc, il y a quelques jours maintenant, dans le courant de janvier, une analyse de la situation de la guerre d'Ukraine, pour faire simple. Et ils en arrivent à une conclusion qui va vous surprendre et qui n'arrivera pas sur vos écrans probablement, c'est de dire que ce n'est peut-être pas un très bon choix pour les États-Unis que de continuer dans cette guerre. Alors, ils le disent en termes, oui, très polis, c'est peut-être pas très très sûr, comme le résultat n'est pas acquis. Et alors, ils expliquent toute une série de considérations. Première considération, on est en guerre contre la Russie. Ça, c'est pas la peine, ils n'insistent pas, c'est acquis, on ne s'est connu. Oui, mais la Russie, elle est chez elle, là, quasiment. Hein. Ses usines d'armement sont à 200 km, elles sont approvisionnées, il y a des routes, il y a tout ce qu'il faut, etc. Nous, on est quand même loin. Alors, c'est pas une vingtaine de chars, une trentaine de chars. Donc, entamer plus avant la guerre contre la Russie avec les États-Unis, ça veut dire d'énormes transports, la mise en place de relais, de logistique, de formation, etc. C'est beaucoup. Quel est le gain que nous en attendons ? Et c'est là que ça devient intéressant. Ça va pas très très loin. Ça va pas, alors, pourquoi ça va pas très très loin ? Parce qu'il se trouve que les Russes, décidément diaboliques, ils ont mis la main sur les régions les plus riches d'Ukraine. Mais quelle idée ! Et pourtant, c'est ça. Les régions des mines de charbon, les régions des mines de fer, les régions des grosses installations sidérurgiques, les régions de toute une série d'autres métaux, les régions à blé, puisqu'il y a encore des régions à blé en Ukraine, mais ça se poursuit du côté russe. Et donc, au fond, ils disent, dans l'état actuel des choses, du conflit ou l'état des forces sur le terrain, la Russie a pris le meilleur morceau. Et en plus, alors, ce qui est très gênant, c'est qu'elle a pris le meilleur morceau avec l'approbation de la majorité des citoyens de ce meilleur morceau. Qu'est-ce qui va nous rester ? Alors, ils ne le disent pas dans ces termes, j'interprète, mais est-ce que c'est un bon calcul de continuer plus loin ? Hein, parce qu'il se dit, si on continue plus loin, peut-être l'Ukraine résiduelle. Car il y a déjà des cartes qui existent, vous pouvez les trouver où vous voulez. L'Ukraine résiduelle, c'est un concept qui est utilisé partout aujourd'hui dans les ministres, dans les chancelleries et dans les états-majors. on ne vous en parle pas sur France 2. Mais qu'est-ce qui va rester de ce pays? Eh bien, on ne sait pas trop, mais une Ukraine résiduelle qui aurait donc perdu les régions russophones, c'est quasiment fait. Enfin, c'est fait. Ils ont voté, ils sont d'accord, la Fédération de Russie les a pondés. Mais on s'aperçoit aussi que du côté de la Hongrie, il y a une région qu'on appelle les Transcarpates, hein, donc c'est dans l'angle extrême ouest de l'Ukraine actuelle, sud-ouest disons, donc la Hongrie. La Hongrie dit, mais elle le sait, on le sait depuis longtemps, mais pour l'instant, jusqu'à présent, il ne disait rien. Il y a des minorités hongroises maltraitées sur le sol ukrainien. Et pourquoi ils resteraient chez les Ukrainiens? Puisque de toute façon, l'Ukraine est en faillite, donc ce n'est pas très intéressant. Et donc le mouvement des Transcarpathiens, il est en train de prendre corps en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là » hein? D'autant plus que l'Ukraine est très très abîmée psychologiquement, politiquement et surtout économiquement. Bon. Ça, c'est un autre mouvement. Dernier élément de côté militaire, disons, il faut savoir que dans les provinces les plus à l'ouest, nord-ouest, celle-là de l'Ukraine, c'est là que se trouvent les minorités les plus fascisantes ou même les plus fascistes historiquement. Ça, on le sait. Et donc, pour l'instant, il y avait dans ces régions-là des systèmes un peu comme des gardes mobiles ou des CRS qui faisaient la police locale. Et ce qu'on vient d'apprendre, c'est que ces gardes mobiles, cette police locale, donc des régions les plus pro-kiéviennes, j'allais dire, d'Ukraine à l'heure actuelle, ben ont été envoyés au combat sur le front de l'Est contre les Russes parce qu'il n'y a plus personne pour se battre. Et donc là, ils commencent à se dire, ah, mais c'était ça que ça voulait dire, notre positionnement contre les Russes. Ça veut dire, eh ben, on va se battre contre eux. Alors ils ne s'y attendaient pas, ces messieurs. Ils ne s'y attendaient pas, mais on leur dit, mais il ne reste plus grand monde. Il ne reste plus grand monde parce qu'il y a déjà eu beaucoup de pertes. Alors les pertes, il y a des chiffres qui ont circulé. Et évidemment, comme on est dans une situation de propagande de guerre, dès qu'il sort un chiffre, y compris dans la bouche de Mme Ursula von der Leyen sur les pertes ukrainiennes, 150 000 hommes, 150 000 morts, il y a tout de suite un plumitif quelconque qui va dire « mais il y en a eu autant chez les Russes ». Alors autant qu'on sache, d'abord il y avait, et retenons-le quand même comme une donnée militaire de toute première importance, il y avait sur le front, il y a encore sur le front, c'est moins vrai maintenant puisque les nouveaux embauchés de l'armée russe sont en train d'arriver sur le front, donc la ligne que vous avez donc dans l'est du pays, mais on considère qu'au début il y avait 3 Ukrainiens pour un Russe. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, l'équilibre peut-être est en train de se rétablir progressivement, mais de toute façon, et comme vu la façon dont les troupes ukrainiennes ont été utilisées, c'est-à-dire l'assaut en rase campagne contre des forteresses et des tirs d'artillerie extrêmement nourris, ils ont eu énormément de pertes. Donc, il y a certainement eu des morts côté russe, c'est pas contestable. L'ordre de grandeur serait plutôt de l'ordre de 25 000 ou 30 000. C'est déjà beaucoup trop, mais c'est une guerre, soyons clairs. Hein, mais rien de comparable à ce qu'au chiffre des pertes ukrainiennes. Et le chiffre des pertes ukrainiennes, il se compense donc par ces gendarmes, disons, de la partie ouest, et puis par des étrangers, hein, de toutes sortes. Alors, des vrais étrangers qui peuvent être des soldats de l'armée polonaise, on sait qu'il y en a, qui peuvent être des légionnaires de la Légion française, puisqu'on a su récemment qu'un légionnaire français d'origine ukrainienne avait été tué au combat et avait été rapatrié, par les Russes d'ailleurs, qui ont renvoyé son corps dans la famille, enfin au moins du côté ukrainien. Donc, c'est ça aujourd'hui, l'armée ukrainienne, c'est ça aujourd'hui, des bouts et des morceaux. Beaucoup d'étrangers et puis des effectifs, donc des décès en quantité considérable. Ce qui amène, alors ça c'est pas du tout le point de vue de la RAND Corporation, c'est pas leur problème de dire on n'est pas à 100 000 Ukrainiens près, mais ils disent on est embarqué dans un conflit où on n'a pas forcément beaucoup d'avantages. Qu'est-ce qu'on va y gagner, nous? Alors, ils s'en foutent que les Ukrainiens y perdent, hein, mais que les États-Unis ne gagnent pas grand-chose. Alors, le gain, il est tout à fait à l'extérieur de la guerre d'Ukraine. Il est sur le fait de l'affaiblissement de l'économie européenne. C'est parfaitement clair. Hein. Donc, je ne rentre pas dans les histoires de prix de gaz, mais vous savez tout ça. Et donc, le seul gain, il est vraiment là. Et c'est pour ça que les experts de la RAND disent « Oui, mais c'est bien, le gain, il est acquis, parce que tant qu'on ne rétablit pas l'arrivée du gaz en Allemagne et en France, du gaz russe, je veux dire, ça ne pose pas problème. Mais au niveau militaire, il n'y a plus beaucoup à gagner, et de toute façon, on n'est pas les plus forts. » C'est ça qu'ils disent, à mots couverts. Hein, parce que, alors, je tire la leçon, c'est cruel, mais autant on peut, et encore avec des résultats très discutables, s'imposer contre les forces afghanes, hein, ou contre les forces irakiennes, bon, je veux bien, mais autant là, ils s'interrogent en disant... C'est quand même un peu difficile, c'est un combat peut-être un peu inégal, et donc faisons bien le compte. Alors c'est très intéressant parce que donc, c'est des gens qui ont l'écoute des plus hauts gradés du Pentagone, qui disent ça dans un texte écrit qui est officiel, que vous pouvez trouver sur Internet et tout, et donc qui sont en train d'exposer à la face du monde que le gouvernement des États-Unis, au moins les couches sérieuses qui réfléchissent un peu sans stupidité, disent on est embarqué dans une aventure qu'il faudrait peut-être arrêter avant que ça ne tourne mal pour nous. Alors ça, c'est un élément d'optimisme par rapport à la situation, je rappelle, hein, parce que chaque fois qu'ils décident de continuer, enfin qu'il y a quelque part quelqu'un qui décide de continuer quand même, hein, que ce soit un Boris Johnson qui met de l'huile sur le feu, un Zelensky qui veut toujours plus d'armement, on peut additionner 10, 20, 30 000 morts ukrainiens supplémentaires, un peu moins du côté russe, on ajoute le prix du sang, hein, pour un résultat qui, dit la Rand Corporation, est discutable et au moins incertain. Parce qu'ils disent, voilà, je vais vous lire un petit passage. Le prix à payer par l'Occident n'est pas négligeable, qu'il s'agisse de la perturbation des marchés de l'énergie, des denrées alimentaires et des engrais, ou du coût du maintien de la solvabilité économique de l'État ukrainien, qui ne fera que se multiplier avec le temps. Alors, comme en termes galants ces choses de la sonique, qu'est-ce que c'est la solvabilité économique de l'État ukrainien ? Ben, ça veut dire que les caisses de l'État ukrainien sont vides et que quand tous les 15 jours ou tous les mois, le Congrès des États-Unis dit « on envoie 10 milliards, on envoie 1 milliard », c'est que de toute façon, il n'y a plus d'argent à Kiev. Hein. Donc on a une situation complètement artificielle où les États-Unis, à coup de dollars, et puis les autres, chacun en envoyant ses tanks ou je ne sais quoi, essayent de maintenir ce régime qui n'en peut plus. Voilà. C'est ça. Mais plus cette comédie sanglante dure, plus il y a encore des morts côté ukrainien, comme il y a des morts chez les civils, comme il y a du mort dans l'armée russe, etc. Ça, c'est ça dont on peut se passer. Et j'espère, je le souligne, que cette réflexion donc, de ce think tank, donc, qui est la Rand Corporation, était une expression d'une partie de l'état-major des États-Unis qui pourrait devenir assez vite majoritaire. Le problème est le suivant, ce n'est pas du tout un problème militaire, c'est un problème de psychologie politique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir passé quasiment un an maintenant à dire que la Russie avait tort et commencer à dire que dans quoi on s'est embarqué. Hein. Et il faut, c'est une perte de face, il faut trouver la façon de prendre ce virage dans le discours. Et petit à petit, parce que pour l'instant, ce que vous voyez sur les chaînes de télévision, c'est l'arrivée des chars. Hein. Et donc, le bilan général du conflit, on ne vous le fait pas comme ça. Mais au fond, il est fait. Et donc, tenir cet état insolvable en fonctionnement, continuer à envoyer des centaines de milliers de soldats ukrainiens ou pro-ukrainiens à l'abattoir, c'est peut-être pas un bon calcul. Que restera-t-il de l'Ukraine après ? Je finis là-dessus. Donc, je vous ai parlé des contestations territoriales. Donc, la partie russophone enlevée, peut-être la partie hongroise enlevée. Et puis, il restera... Alors, on ne sait pas si la Pologne va reprendre une partie de l'Ukraine, mais ça a existé dans l'histoire, c'est possible. Mais je pense plutôt que ce seront les intérêts capitalistes polonais qui viendront ramasser ce qui reste de fonctionnement de l'économie ukrainienne. Et puis, il n'y aura personne pour leur dire de ne pas le faire, puisqu'il n'y aura pas d'argent. Bon, voilà, donc des éléments d'évolution de cette situation qui portent un peu sur le long terme. Mais ce que j'allais dire pour conclure, c'est plus le long terme est proche, moins le sang sera versé. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Et je vais passer, alors vous allez voir, je fais un rebond sur l'Amérique latine, parce que l'Amérique latine est invitée à investir militairement en Ukraine. Écoutez bien. Il y a donc dans le commandement militaire de l'armée des États-Unis un commandement, puisqu'il y a des commandements par grandes zones géographiques, la planète est divisée en petits morceaux, et il y a un commandement pour l'Amérique latine qui s'appelle le South Command, le commandement du Sud. Bon. Donc il y a autorité militaire sur l'Amérique latine dans son entier. Et la générale, puisque c'est une dame qui commande le South Command, dont je j'ai le nom quelque part, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, est en train de lancer une opération assez étonnante que je vais essayer de vous décrire. Elle a écrit à tous les chefs d'État donc, de l'Amérique latine, en tant qu'une espèce de... Je suis votre tuteur militaire, au grand, hein, puisque moi, je m'occupe de la zone, hein, et je vous défends contre les méchants, éventuellement, qui voudraient le mal. Elle a écrit les choses suivantes. « J'ai découvert, elle le sait très bien, que vous aviez de l'armement russe chez vous. » Ah, bon. Et cet armement russe, vous l'avez depuis un certain temps, bien sûr. Il n'est peut-être pas tout à fait de pointe. Ben écoutez, voilà ce que je vous propose. Écoutez bien, vous allez voir, c'est extraordinaire. Elle dit « Vous me le donnez, j'envoie tout ça en Ukraine. » Et à la place, je vous donne du matériel neuf made in USA, gratos. C'est pas beau, ça? C'est pas... hein? Voilà. Donc, c'est la mafia militaro-industrielle des États-Unis en plein fonctionnement. Alors, bien entendu, elle a adressé ce discours à tous les pays latino-américains. Et puis, elle a insisté. Alors, sans donner de nom, mais tout le monde a compris. Quels sont les pays latino-américains qui ont le plus d'armement russe? Ben, le tour est vite fait. Cuba, numéro 1. Le Nicaragua, numéro 2. Le Venezuela, numéro 3. Donc, les ennemis intimes. Hein, et donc, c'est bien. Je viens vous voir. Hein, je vous dis, allez, l'armement russe, il est dépassé. Vous l'avez depuis 10, 15 ans, 20 ans et tout. Maintenant, je vous donne du neuf pour rien. Hein, et vous participez, vous, comme ça, à la guerre d'Ukraine. Hein. Mais ils osent le faire. Alors, bien entendu, on a beaucoup ri, au moins dans les trois pays concernés, et même chez les autres, en disant, vous nous achetez, vous nous donnez des armes modernes, toutes neuves, et vous faites fonctionner vos usines à vous, parce que c'est ça, la logique. Il faut que Lockheed et Raytheon et tous les autres se remplissent les poches encore plus, hein, parce qu'ils vendent déjà des tas de choses partout. Ceci m'amène à évoquer nécessairement la situation du Pérou qui se trouvait un maillon faible dans cette opération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Pérou, avec sa présidente de facto, son président en prison, ses manifestations sur lesquelles je vais m'arrêter, se trouvait aussi un des pays qui avait, à une époque, dans les années 70, reçu du matériel militaire russe. Et là, probablement, les États-Unis se disent « on frappe à la bonne porte puisqu'on a un gouvernement qui est à notre botte, qu'on a aidé à installer, et donc eux, ils vont marcher dans l'opération. Et si en plus on leur dit « on vous amène une armée neuve, gratos », effectivement, c'est tentant, surtout pour des gens qui sont d'un parti qui a été une dictature militaire, donc qui aiment bien ce genre de raisonnement. Bon. » Alors ça marchera ou ça marchera pas, parce que la situation péruvienne est en train d'évoluer dans un sens très intéressant. Je l'avais caractérisée dans les premières semaines comme une réaction, disons, des populations andines, des hauts plateaux, des paysans, etc., contre Lima, la capitale, qui est trop grosse, qui est trop pro-occidentale et tout. Je rappelle, Lima, c'est une agglomération de 10-12 millions d'habitants. C'est un tiers de la population du Pérou qui est concentrée à cet endroit-là. Et le Pérou, c'est grand. C'est trois fois grand comme la France. C'est pas un tout petit pays. Bon. Et donc, au début, les manifestations ont été extérieures à Lima. Et puis, il se trouve, et c'est là que la page a été tournée, que des manifestants donc des régions andines et des régions indiennes, pour faire simple, sont venus à Lima pour dire... Il faut nous aider. Hein, il faut nous aider. Puis il faut qu'on organise des manifs ici, parce qu'ils voient bien que le gouvernement et le Parlement qui est à Lima, finalement, ils s'en fichent qu'il y ait 50-60 morts tirés par la police comme des lapins dans les hauts plateaux. Ça ne les concerne pas. Alors donc, ces manifestants, ces militants étaient venus à Lima en disant ben, « on va essayer d'impliquer la population de Lima, liméenne, comme on dit, qui n'est pas toute dans la richesse. Vous l'imaginez, il y a des bidonvilles aussi tout autour de Lima. » de les impliquer dans la lutte commune contre cette dictature qui se met en place et contre ce coup d'État. Et il se trouve que leur démarche avait eu un écho très très positif dans la principale université du pays, qui est à Lima. Et que donc ces militants, venus des hauts plateaux, ont été accueillis par les étudiants. Bon, que croyez-vous qu'il se passa? Eh bien, quasiment le jour même ou le lendemain, l'armée péruvienne est rentrée dans l'université, a donné force coup de matraque, etc., mis des menottes partout, en voulez-vous, voilà, a tué, je crois, un étudiant est mort dans les opérations. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est la répression comme ils faisaient ailleurs, mais là, la population de Lima a pu la voir. Et en fait, c'est en train de faire basculer la situation, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population de Lima qui maintenant manifeste pour faire partir la présidente usurpatrice. Donc, c'est l'évolution de la situation. Comme quoi, effectivement, il ne fallait pas dire les Indiens, ils restent dans leur haute terre et ils ne nous embêtent pas. Ça y est, la jonction est faite. Je souhaite qu'elle soit de plus en plus productive parce que les revendications politiques maintenant sont tout à fait claires. C'est démission de Mme Belloy-Duarte, organisation d'un référendum pour ouvrir une convention constituante, c'est-à-dire on ne veut plus de cette constitution, il faut qu'il y ait une constitution nouvelle qui sera différente et qui donnera beaucoup plus de place aux expressions populaires et aux expressions des minorités indiennes et des minorités de cultivateurs des hauts plateaux, etc. Voilà. C'est ça qui est en cours. Donc on a eu d'abord une maturation, disons, de la revendication politique qui est très claire, départ de l'usurpatrice et organisation d'une nouvelle... d'une assemblée constituante et rédaction d'une nouvelle constitution. Là, le jeu est très, très intéressant. Et puis, il est suivi avec beaucoup d'intérêt par tous les voisins latino-américains, puisqu'ils disent là est la condition, effectivement, de sortie de cet État, de cette constitution qui était marquée par le fait que, je le rappelle, le Pérou a été victime d'une dictature militaire extrêmement brutale et que c'est cette dictature qui a mis au point cette constitution actuelle avec toutes ses impasses. Donc là aussi, un petit clin d'œil, un petit regard optimiste sur la situation. On va faire une petite pause musicale. Alors, vous allez entendre un morceau. Je ne vous dis pas avant de qui il s'agit, de quoi il s'agit. De quoi il s'agit, vous allez tout de suite comprendre. Et je vous dirai après de qui il s'agit. Voilà. Roselyne, qui est aux commandes aujourd'hui et que je remercie, va nous envoyer une petite musique que j'ai sélectionnée pour vous.
La nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés, la mer on ne s'y baigne plus, la mer on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à la partage. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra. Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire témoignent de ceux qu'ils t'ont volé. Petit ton pays, ton histoire, petit ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza assassinés par leurs missiles? Où sont Ahed et Zakaria et Muhammad et Ismaïl? Petit l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui. Mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation. Malgré l'apartheid, à l'occupation, l'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra. Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère. Mon peuple exclu, saigné à mort dans sa prison à ciel ouvert. Petit résiste à l'oppresseur comme Barghouti et Georges Abdallah chassent les colonisateurs. Comme l'a fait Nelson Mandela, comme l'a fait Nelson Mandela. Détruisons le mur de séparation. Halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza. Palestine vivra, Palestine vaincra.
Parfaitement clair, donc je ne m'attarde pas sur le propos que vous connaissez, mais il s'agissait, vous avez entendu, Dominique Grange, qui est donc une chanteuse parolière française, qui fête ces jours-ci ses 82 ans, et qui a été, alors elle a toute une histoire de chanteuse et de militante tout à la fois, puisqu'elle a été maoïste dans les années 68-75, elle a été partie prenante de toutes les luttes des sidérurgistes lorrains contre la fermeture de leurs installations, les luttes en Palestine, etc. Et je m'arrêtais là-dessus, enfin, j'ai pensé à elle parce qu'elle s'est mariée sur le tard, disons, un dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Tardi, que vous connaissez peut-être, T-A-R-D-I. Ils étaient suffisamment âgés, mais ils ont décidé quand même d'avoir des enfants. Ils ont adopté 4 Chiliens. Et puis ils s'occupent de leurs 4 Chiliens, avec des liens avec les familles chiliennes d'origine, avec des liens avec d'autres familles qui font le même type d'accueil en France. Et elle continue à militer. Elle continue à militer en venant à des meetings, en chantant des chansons. Alors, la chanson sur Gaza et sur la Palestine a une dizaine d'années peut-être, mais elle continue, elle est toujours active. Elle a gardé, pour une personne de 82 ans, une très très jolie voix, vous avez entendu. Elle sait de quoi elle parle, et donc elle a fait partie de tous les combats de ce demi-siècle, je dis, puisqu'elle était jeune militante au moment de 68 et surtout après. Voilà. Et alors, dernière chose qui m'a amené à penser à elle, c'est que le dernier album qu'elle a publié, enfin, donc elle fait des albums de bande dessinée avec son mari, Tardi. Le dernier album qu'ils ont publié, et ça a du succès, l'Allemagne a refusé qu'il soit traduit et diffusé en allemand parce que le mot apartheid est prononcé à propos de la Palestine. le mot que vous avez entendu prononcer dans sa chanson, le mot apartheid. Et donc, du coup, les autorités, alors je ne sais pas à quel niveau du gouvernement ça se situe, il y a une censure qui s'est exercée. Cet album, dans lequel on parle de l'apartheid israélien sur le sol palestinien, est interdit à la vente en Allemagne fédérale. Ça en dit assez long. Ça en dit assez long, en particulier, et ce n'est pas le seul cas, hélas, où une espèce de culpabilité des gouvernements allemands actuels par rapport à ce que l'hitlérisme a fait. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté sur laquelle il faut qu'on soit conscient, c'est-à-dire que même si vous êtes né il y a 20 ans, en 2000, vous êtes dans une gang où il y a une partie encore des gens de l'appareil nazi et de ceux qui ont laissé faire le nazisme, car il y en a eu, alors qui l'ont laissé faire peut-être par la violence ou qui ont résisté comme ils ont pu, et ceux qui sont arrangés avec le nazisme, il y en a eu, ceux qui ont été carrément des fonctionnaires du nazisme, je pense à certains dirigeants de l'Allemagne de l'Ouest jusqu'à il y a assez peu de temps, et donc il y a une certaine difficulté, au moins de la classe dirigeante allemande, qui sait encore qu'elle a quand même participé assez activement, je parle de cette couche dirigeante très clairement, au nazisme et au meurtre de masse, donc à assumer son passé. Et c'est pour ça que le mot apartheid, il ne le supporte pas. Enfin, il l'interdit. Hein. Alors que je pense qu'un jeune Allemand de 20 ans le comprend très bien. Et il ne veut pas se sentir, et à juste titre, responsable de ce qui a été fait donc, il y a 80 ans par ses ancêtres. Je rappelle aussi, dernière chose, puisqu'il faut quand même le dire, que Hitler n'est pas arrivé au pouvoir par hasard, il n'a pas pris le pouvoir par un coup d'État militaire, ça on a tendance à dire. Non, non, il a été appelé à la chancellerie, donc à prendre le pouvoir de gouvernement allemand, par la grande bourgeoisie, avec l'accord total de la démocratie chrétienne allemande et du patronat allemand. Donc il faut se souvenir de ça. Ce n'est pas du tout un monsieur qui tout d'un coup arrive. Alors il avait tenté un coup d'État en 22, il avait raté parce qu'il était tout seul, il était un peu excité, etc. Ça n'avait pas marché. Mais à partir du moment où vous avez d'un côté le grand patronat de la sidérurgie en particulier, vous avez l'Église qui participe aussi et qui dit finalement on va tenter, on va le mettre au pouvoir parce que lui, il va brider les ouvriers, il va nous défendre dans nos intérêts, il va nous renforcer par rapport à nos adversaires en politique étrangère. Et donc Hitler arrive au pouvoir parce que la bourgeoisie allemande l'a laissé arriver au pouvoir, car ça correspondait à son plan, à elle. Voilà, c'est ça. Alors après, on peut parler beaucoup des erreurs, des traités de Versailles qui ont demandé trop d'argent, de réparations. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, ne jamais oublier politiquement que la grande bourgeoisie est allée chercher Hitler, sachant qui il était, parce qu'il n'avait pas écrit, il n'a pas écrit Mein Kampf les premiers jours de janvier 1933. Il l'avait écrit 10 ans plus tôt. On pouvait le lire, y compris Monsieur l'ambassadeur de France à Berlin disait, attention, il a écrit ça. Mais il écrivait, bien sûr, dans la correspondance interne au Quai d'Orsay, et personne n'y faisait attention. On connaissait le personnage, on connaissait son programme, hein, et il a été amené au pouvoir par la bourgeoisie. C'est ça qu'il faut qu'on ait en tête quand on parle de l'arrivée de l'extrême droite, etc. L'arrivée de l'extrême droite, elle peut très bien servir des intérêts qui ne sont pas spécifiquement ceux de l'extrême droite. Et ça m'amène, parce que vous voyez, tout était calculé, ça m'amène à vous parler du bombardement de Dresde. Qu'est-ce que c'est que le bombardement de Dresde ? Alors Dresde, c'est une grande ville d'Allemagne plutôt à l'est, qui a été, au moment où il existait une Allemagne de l'Est, donc la République démocratique allemande, qui était du côté de la République démocratique allemande, mais ça faisait partie du Reich. Grosse ville industrielle. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est pour ça que je m'arrête là-dessus. Il s'est passé qu'au mois de février 1945, donc c'est le 78e anniversaire de l'événement, Hitler a décidé qu'il fallait montrer non pas à la population, mais il fallait montrer à l'armée russe qui était à quelques centaines de kilomètres de Berlin et qui avançait. Et Hitler était à juste titre inquiet, puisque février 45 jusqu'en mai 45, là, quand ils arrivent, vous voyez, il y a très peu de jours. Bon, donc il était inquiet et il a décidé de faire un exemple pour montrer la capacité de destruction, disons, des, des armées alliées. Et qu'est-ce qu'il a décidé ? Donc, de bombarder Dresde. Et, enfin, il a décidé, oui. Il voulait mener une action. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis et l'Angleterre surtout ont décidé de montrer eux-mêmes à l'armée soviétique de quel bois ils étaient capables de se chauffer. Et j'explique de quel bois ils étaient capables de se chauffer. Il s'est agi tout simplement, en une nuit, de raser Dresde totalement avec des bombardiers qui arrivaient par vagues successives et qui lâchaient des bombes au phosphore ou d'autres comme ça, et donc qui ont quasiment rasé Dresde en une nuit. Alors effectivement, c'est moins que la bombe atomique, parce que la bombe atomique, il en suffit d'une. Là, ça a pris toute une nuit avec des centaines de bombardiers qui ont déversé. Mais le résultat, c'est que cette ville de, je crois, j'ai le chiffre quelque part, de l'époque, qui était... Alors attendez, je vais vous donner les chiffres quand même, parce que je les ai sur mon papier. Je ne vais pas les trouver, Attendez, excusez-moi. Ça, c'est la préparation liée à la manif. Enfin, disons, on est de l'ordre de 25 000 morts hein, dans la nuit. Hein. Et en fait, ce qui est très clair aujourd'hui, et ça nous rapproche de l'histoire d'Hiroshima, c'est que de cette façon-là, l'Angleterre et les États-Unis ont montré à l'armée russe qui était à proximité, qui a pu voir l'événement se dérouler, de quel bois ils pouvaient se chauffer. Hein. Et donc dire, voilà, nous sommes capables de ça. Ils ont fait ça en février à Dresde, ils ont fait ça le mois d'après à Tokyo, ça c'est les Américains, à Brest c'était plutôt les Anglais. On a une puissance de feu considérable, hein, et donc on est encore alliés avec vous, mais rendez-vous bien compte avec qui vous travaillez pour l'instant. Alors, bon, pour faire tomber Hitler, on est d'accord, on travaille ensemble, mais voilà ce qu'on est capable de faire, nous. Hein. Regardez bien ce qui veut dire... et ce qui a été très très bien compris à Moscou, que si jamais on décidait de faire pareil sur, oh, au passage, Leningrad, Moscou, etc., voilà ce dont on est capable de faire, voilà notre puissance destructrice. Et voilà pourquoi la population civile de Dresde, où il n'y avait pas de... Alors, ils ont raconté des histoires après en disant qu'il y avait une gare de triage importante qui permettait l'approvisionnement en matériel militaire. En fait, la gare était à l'extérieur et n'a pas du tout été touchée par les bombardements. Donc ça, c'est la façon de réécrire l'histoire après. Il s'agissait bien de montrer que les Occidentaux, enfin les alliés occidentaux, donc Grande-Bretagne et États-Unis, étaient très, très dangereux et étaient capables de faire n'importe quoi. Bon, ça, c'est Dresde. Je voulais citer ça, puisqu'on va parler aussi bientôt de Leningrad. Alors, ça s'est passé de la même façon à Leningrad. Stalingrad, pardon. C'est la suite de la guerre. Mais là, c'est une opération très, très importante qui montre bien qu'il y a des moments où la vie des civils ne compte pas. J'en parlais tout à l'heure pour l'Ukraine. Où la vie de certains militaires ne compte pas non plus quand il y a des relations de puissance qui sont en cause. Bien. Je regarde très calmement mon agenda pour vous parler des céréales russes. Je reviens un peu sur les céréales russes puisqu'on a un certain nombre de chiffres qui sont sortis. Alors vous savez que, je rappelle le système qui a été mis en place à la suite d'un accord donc, qui implique l'Ukraine, la Russie et la Turquie qui est en capacité de contrôler les exportations parce qu'elle laisse passer les bateaux porteurs de céréales par le Bosphore et les Dardanelles. Donc c'est elle qui a le verrou, qui a la porte. Bon. Et donc cet accord a été appliqué, il a été contesté à certains moments, mais il continue de l'être et ça fonctionne. Mais ce qui est intéressant, c'est les dernières données qui sortent sur ce trafic de blé, ces exportations de blé. Alors, les pays, alors là-dedans, les pays à revenus élevés, je cite, ont reçu 8 millions de tonnes, donc 47% des tonnages exportés. Les pays à revenus supérieurs à la moyenne, la Chine, la Malaisie, ont reçu 6 millions de tonnes, 33%. Les pays à revenus inférieurs à la moyenne, Bangladesh, Inde, Indonésie, Pakistan, 2,9% du tonnage. Quant aux pays dans le besoin, alors vous expliquez, c'est parce que ça, c'est le langage onusien, là, les pays dans le besoin. Alors, la Somalie, qui est en guerre, l'Éthiopie, où ça ne va pas très fort, le Yémen, qui est en guerre, le Soudan, qui n'est pas très fort non plus, l'Afghanistan, où le calme n'est pas là, seuls 3% du blé ukrainien a été expédié aux pays pauvres. Hein, alors que vous souvenez que dans le même temps, on a voulu nous faire pleurer en disant « la guerre d'Ukraine empêche le blé d'arriver dans les pays pauvres ». urbains. Alors, je rappelle, 47% dans les pays riches, 33% dans les pays inférieurs et 3%, 2,9% même, pour ceux qui ont faim. Alors, j'espère qu'ils ont trouvé d'autres solutions que ça pour régler leur problème de faim. Ensuite, la Russie, qui souligne ces chiffres, dit dans le même temps où tout a été fait quand même pour que ce blé soit exporté, même s'il n'est pas allé au bon endroit. Enfin, ce n'est pas l'endroit qu'on nous avait dit qui était le plus important. La Russie souffre, elle, d'un problème d'exportation d'engrais. Parce que vous savez que pour faire pousser des céréales, ou pas que des céréales, un peu partout, on a besoin d'engrais. Et il se trouve que la Russie est un gros exportateur d'engrais. Là, il n'y a pas eu d'accord pour les engrais russes. Et donc, la Russie est dans la situation où elle dit « Moi, je suis prêt à livrer gratuitement de l'engrais que j'ai fabriqué chez moi à des pays qui en ont besoin et on ne me le laisse pas passer. » C'est-à-dire qu'il y a encore ce discours. Les pays pauvres, ils ne reçoivent pas de blé, mais c'est parce que le blé, il va chez les riches. Et maintenant, s'ils ont besoin d'engrais, eh bien, ils ne passent pas. C'est-à-dire que là, la Turquie ne laisse pas passer. Il n'y a pas d'accord. Hein. Et la Russie souligne, puisqu'ils ont des chiffres, qu'il y a des lots d'engrais qui sont bloqués dans un certain nombre de ports étrangers, aux Pays-Bas, par exemple, en attendant qu'il y ait un déblocage de cette situation. C'est-à-dire le client est prêt à recevoir, le client, c'est gratuit en plus, attend son engrais pour la récolte future, enfin les semailles futures, et il n'y est pas parce que politiquement, on veut embêter la Russie. Enfin, ça fait partie du système des sanctions que vous connaissez. Dernière chose, je regarde l'heure tranquillement, dernière chose sur laquelle je voulais m'arrêter. Alors, ceci fait partie de l'improvisation liée à la préparation de la manifestation. Mais ce sur quoi je voulais insister, je voulais donner un exemple qui est assez intéressant pour parler de l'embargo sur Cuba, qui, vous le savez, est un sujet qui nous préoccupe à juste titre et qui préoccupe bien plus encore les Cubains, encore plus à juste titre. Il s'est trouvé que j'ai découvert, alors c'était facile, il n'y avait rien de secret, que la société Orange, donc la grande société française de télécommunications héritière de France Télécom, est en train d'installer un câble pour le transport de données entre la Martinique et Cuba. Alors ça, c'est très intéressant, parce que donc finalement, là, il y a un viol du blocus, hein, puisque donc on a une société française qui met en place un câble. Alors vous savez qu'Orange, en plus, non seulement maîtrise toutes ces techniques-là, mais en plus, Orange dispose d'une flotte de câbliers. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire le travail, et c'est eux, avec leur flotte de câbliers, de ces petits bateaux spécialisés, qui vont poser le câble qui va aller donc de la Martinique à Cuba. Donc la Martinique, territoire français, jusqu'à nouvel ordre, disons. Et puis Cuba. Cuba n'était pas totalement dépourvu de liens techniques et informatiques, puisqu'il y a un autre câble qui avait été posé il y a quelques années, du temps de Chavez, entre le Venezuela et Cuba. Donc, mais c'est tant mieux, ils sont mieux connectés qu'ils ne sont avant. Alors je me suis dit, comment ça se fait que Orange s'est amusé à ce jeu-là? Parce que je me suis dit, Orange va devoir payer des amendes colossales aux États-Unis et tout. Eh bien, j'ai compris, parce que j'ai interrogé donc un retraité de France Télécom qui m'a dit « Mais Orange a essayé de pénétrer sur le marché américain, ils avaient des ambitions. Ils ont créé donc une filiale à New York. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, pas très longtemps, ils ont compris que, de toute façon, le marché des États-Unis leur était inaccessible. C'est-à-dire qu'ils avaient en face d'eux des entreprises des États-Unis qui ne voulaient absolument pas d'un concurrent étranger, aussi compétent soit-il, pour venir démarcher leur clientèle sur le territoire des États-Unis. Et donc, en fait, j'insiste là-dessus parce qu'on a affaire à un pays qui s'affiche libéral, à condition que lui puisse investir chez les autres, mais il ne veut pas qu'on investisse chez lui. Ou alors, s'il accepte, c'est que c'est pour des productions qui n'ont pas de caractère stratégique ou parce qu'il ne sait pas le faire. Ça, c'est tout autre chose. Et donc, on a là une limite très, très intéressante du libéralisme tel qu'il se pratique. C'est-à-dire, le libéralisme, c'est quand moi, je peux envahir n'importe quel marché avec mes produits, mais je n'accepte pas n'importe qui essaye d'envahir mon marché. Et donc, Orange a arrêté les frais. Ils ont fermé la filiale des États-Unis. Et donc, aujourd'hui, Orange n'a plus aucun lien avec les États-Unis. Je pense qu'ils n'ont pas de compte en dollars. Enfin, ils ont dû prévoir le coup quand ils ont commencé l'installation du câble pour Cuba. Et donc, Orange peut, d'une certaine façon, tirer la langue aux États-Unis en disant, ben voilà, moi, je pars de la Martinique, je suis chez moi, je vais à Cuba, c'est mes affaires, et vous pouvez t'embêter, créer, trouver que c'est pas bien, j'en ai rien à faire. Ça, c'est un cas très, très intéressant parce que ça renvoie à ce que nous avait expliqué quand on l'a reçu à Marseille, Victor Dédage. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien chercher les cas où effectivement les États-Unis peuvent s'agiter, faire beaucoup de bruit, etc. Mais ils n'ont pas prise sur l'événement. Et là, ils n'ont pas prise sur l'événement. C'est-à-dire qu'une société française pose un câble entre la Martinique et Cuba et les États-Unis ne peuvent pas l'empêcher. Il ne leur resterait, bon, ils l'ont déjà fait pour les gazoducs russes, qu'aller couper le câble. Enfin bon, ça serait quand même peut-être une mauvaise manière, et puis ça donnerait l'idée à d'autres d'en couper, donc c'est un jeu auquel, pour l'instant, ils ne se sont pas livrés. J'ajoute, puisque j'en suis à parler des câbles, que même cette idée de protéger les câbles sous-marins, et qui sont de plus en plus importants et qui font circuler, je le rappelle, 97% des données informatiques qui circulent sur la planète passent par les câbles sous-marins. Ça ne passe pas du tout par des satellites dans les airs. Donc effectivement, la sécurité des câbles sous-marins est une discipline de plus en plus importante et qui met en œuvre de gros moyens techniques parce qu'il faut surveiller que ces câbles qui sont posés, ils sont pas, il n'y a pas de sécurisation du câble, il est en général posé sur le fond. Donc il faut une surveillance permanente. Il y a maintenant des drones de surveillance, des petits sous-marins de surveillance, car on a là des artères stratégique pour l'affaire. Un câble coupé, c'est des milliers d'entreprises qui ne peuvent plus fonctionner dans l'instant. Que ce soit des entreprises qui fabriquent des supports chaussettes ou que ce soit des hôpitaux ou des banques. Tout le monde est donné et coupé par ça. Bon, donc c'est bien de le savoir. Et c'est là-dessus que je crois que je vais terminer pour laisser la place à nos amis musiciens, en disant qu'on se retrouvera de toute façon mardi prochain, qu'on aura une émission mercredi prochain sur laquelle je ne m'attarde pas parce que le thème est probablement fixé, mais la réalisation est en cours. Si, je peux le dire d'ailleurs. Normalement, l'émission de mercredi prochain, qui sera donc le 8, hein, mercredi 8 à 20h, sera une émission consacrée à la bataille de Stalingrad, qui est la bataille qui a décidé, enfin qui a basculé, fait basculer l'avancée et le sort de la Deuxième Guerre mondiale, y compris le nôtre, puisque le sort de la Deuxième Guerre mondiale s'est réglé dans un sens qui a fait que la France, à un moment donné, a été libérée grâce au sacrifice des Soviétiques. Ne jamais oublier ça, la donnée. Merci beaucoup, merci Roselyne, et place à la musique.